des batailles qu'il faut mener aujourd'hui pour reprendre le pouvoir?
Bonjour à tous. C'est pas vraiment tout à fait la question que j'attendais, mais je vais y répondre. J'aurais déjà dire une première chose, c'est que merci au PGE d'avoir organisé ce forum, parce que ça nous permet déjà de reprendre la République avant de reprendre la Bastille. Et moi, je me souviens, il y a 10 ans, effectivement, je crois que c'était le 5 mai, si mes souvenirs sont bons, nous étions beaucoup à intervenir, quelques jours avant l'annonce du résultat du référendum, et avant, effectivement, aussi, de se retrouver le 29 mai à la Bastille. Moi, je suis content d'intervenir dans ce débat, parce qu'il est très sérieux. Il nous pousse à aborder de manière très concrète comment on change les choses. Alors je vais me prendre avec les deux intitulés. La démocratie contre les banques et le deuxième, comment on reprend le pouvoir à la finance. La première chose, la démocratie contre les banques, on pourrait peut-être inverser la phrase. Parce que c'est aussi les banques et la finance contre la démocratie que nous vivons aujourd'hui. Il y a une phrase de Juncker, il n'y a pas longtemps, vous la connaissez souvent, qui dit « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». On pourrait inverser la chose, on pourrait dire qu'il ne peut pas y avoir de démocratie dans les traités européens. La Banque Centrale Européenne, ça a été dit, et nous l'avons suffisamment dénoncé en 2005 avec justesse, se déclare indépendante. Mais constatons une chose, c'est qu'elle n'est pas indépendante du système financier et bancaire. Et s'il fallait le prouver, eh bien on regarderait que depuis 2011, elle a su elle-même s'abstraire de certains cadres du traité quand c'était au besoin de secourir les banques. Quelques exemples. Entre 2011 et 2012, elle fait une opération de refinancement des banques à la hauteur de 1 000 milliards, opération de refinancement que les banques n'ont même pas utilisée entièrement parce qu'ils ont préféré continuer à spéculer plutôt qu'à investir. Ce qui signifie une chose, c'est qu'effectivement, on a prêté, et là on a su faire de l'émission monétaire, directement aux banques à 0,25%, quand les mêmes banques, et notamment par rapport à la Grèce, prêtaient à 4 ou à 5%, c'est-à-dire spéculaient sur les dettes souveraines. Deuxième chose qui a été faite, c'est le rachat il n'y a pas longtemps, pour justement que les banques évitent tout problème avec les dettes souveraines, ça a été le rachat des dettes publiques aux institutions financières, ce qui a permis justement de faire encore un transfert de la dette privée vers la dette publique. Et vous le savez récemment, ça a été à nouveau le fait qu'en janvier 2015, à hauteur de 1 000 milliards, eh bien, on permette une dette sur le marché secondaire, c'est-à-dire à nouveau, permettre de donner de l'argent aux banques. Donc on voit bien une chose, c'est que la Banque Centrale Européenne sait très bien financer quand il le faut, mais évidemment pas les États, qu'elle s'interdit de faire parce qu'il ne pourrait pas, dans ces cas-là, y avoir de spéculation sur les dettes souveraines, mais les banques et la finance. Pourtant, les solutions seraient simples. Il y a la solution, j'espère que tu me corrigeras si je ne me trompe pas, mais que demande le gouvernement grec, c'est-à-dire de transformer les créances en dettes perpétuelles à taux fixe et sans remboursement du capital. Il y aurait une deuxième solution, simple aussi, qui est d'annuler les créances qu'elle détient et racheter les titres détenus par d'autres États afin de les annuler. Autrement dit, cela revient toujours au fait que la Banque Centrale Européenne pourrait aider directement les États dont la dette, ça a été dit tout à l'heure, est due en grande partie au transfert de la dette privée en banque publique en 2008. À l'inverse de ça, qu'est-ce qu'on a? On a Draghi, qui se comporte comme un véritable gouverneur de l'Europe et qui décide, avant même toute décision de l'Eurogroupe, de l'Union européenne, de la Commission européenne, qui décide, une fois que le gouvernement de Tsipras a pris les rênes en Grèce, eh bien, d'interrompre la garantie de refinancement des titres bancaires grecs, ce qui est rien d'autre qu'une coercition illégitime sur un gouvernement légitime. La deuxième chose qu'évidemment fait la Banque Centrale Européenne, c'est ces triggers absolument incroyables qui entraînent toujours plus de ralentissement économique jusqu'à menacer l'Union Européenne de rentrer en récession généralisée. Ces triggers, comme ils disent, nous on n'est pas hypocrites, on appelle ça austérité, qui répond à une politique, là encore, Georgios, j'utiliserai une des phrases que tu as sorties dans l'Humanité, qui est très bonne, un terme, tu parles de sado-monétariste. Eh bien, je trouve qu'effectivement, le terme est exact, parce qu'on voit bien que les victimes de ce sado-monétariste, absolument imbécile, parce qu'à un moment donné, l'activité qui fléchit inévitablement finit par avoir des répercussions, y compris sur la finance. Ce n'est rien d'autre que proposer comme victime l'ensemble des peuples européens. Ce matin, j'ai entendu le débat ici entre les différents intervenants. C'est peut-être une des discussions à certains moments dans la gauche qui, je dirais, a voté non en 2005 et qui continue à ne pas être d'accord. C'est que l'austérité, c'est pas un ordre naturel. Je sais plus qui le disait tout à l'heure, mais il n'y a pas austérité pour tout le monde. Il n'y a pas austérité pour le CAC 40. Il n'y a pas austérité pour le partage des richesses qui continue à exploser entre les plus riches, les oligarques et le peuple. L'oligarchie, l'austérité, c'est une politique. Et comme le disait tout à l'heure mon camarade de la Fondation, c'est une politique qui a une signification. C'est celle du transfert des richesses toujours plus importantes, des revenus du travail vers les revenus du capital. Autrement dit, c'est effectivement le système capitaliste qui organise l'austérité pour toujours garantir au système financier des taux de profit à deux chiffres. Voilà la situation à laquelle nous avons affaire. Voilà la situation qui a fait que nous sommes paradoxalement dans la zone au monde où nous n'avons non seulement pas été capables, même à l'intérieur du système capitaliste, du fait de l'indépendance de cette banque centrale, de faire, d'affaiblir ou d'amenuiser les effets de la crise de 2008, mais au contraire même, nous n'avons fait, grâce à cette politique imbécile, que la croître. Je me rappelle en 2005, il nous disait « Vous n'avez pas de plan B ». Eh bien, leur plan A, c'est l'explosion du chômage, c'est l'explosion de la pauvreté, c'est l'explosion de la précarité, c'est le fait qu'il y a des pays européens qui, aujourd'hui, sont renvoyés à des situations, et c'était la situation de la Grèce il n'y a pas si longtemps, à la situation aujourd'hui de pays en voie de développement. Voilà leur plan A. Alors comment maintenant, c'est la deuxième question, comment on fait pour réagir par rapport à ça? C'est peut-être là aussi où il y a les débats entre nous. La première chose, c'est qu'il faut être réaliste sur la situation en Europe. L'Union européenne n'empêche pas que la géopolitique continue à exister entre les États. N'empêche pas qu'il y a à certains moments des États, en tout cas des bourgeoisies, qui défendent les intérêts propres et les systèmes qui conviennent à leur bourgeoisie. Ce que nous constatons, et je trouve que la résistance grecque le révèle encore mieux, c'est que depuis quelques années, l'Union européenne fonctionne sur un système basé sur l'exportation, et notamment l'exportation du modèle allemand, parce que cette exportation nécessite plusieurs choses. Un euro fort, de façon à ne pas pouvoir subir de dévaluation compétitive des pays autour. Et la deuxième chose, un euro fort pour garantir effectivement les ressources des anti-allemands. Ce n'est pas être anti-allemand que d'analyser de manière lucide cette politique au service de la bourgeoisie allemande. D'ailleurs, politique, et mon ami Die Linke ne me contredira pas, qui a fait une première victime au début des années 2000. C'est le peuple allemand lui-même. Cette politique, aujourd'hui, eh bien, le gouvernement grec est en train, je dirais, de la vivre à chaque réunion. De manière méprisante, l'Eurogroupe traite Alexis Tsipras et les différents ministres grecs. Et à ce niveau-là, je me ferai juste une aparté, quoi. C'est quand même incroyable qu'il y ait un tel mépris adressé à un pays qui tente de trouver des solutions pour à la fois respecter la souveraineté de son peuple, le mandat que lui a donné son peuple, mais également de changer en restant dans l'Union européenne, et la façon dont David Cameron, qui vient pour changer les traités de manière encore plus libérale, qui n'est pas dans l'Eurogroupe, est traité par le gouvernement européen et par François Hollande en premier lieu. Alors oui, le gouvernement Tsipras fait l'expérience de ce qui se passe. Et l'expérience de ce qui se passe, il faut le dire, c'est qui décide, Madame Merkel, qui exécute Juncker et Draghi, et qui se soumet, François Hollande. Et quand je dis ça, c'est effectivement un problème. Parce que si la France, deuxième puissance économique en Europe, soutenait, comme lui a demandé Alexis Tsipras, une autre solution au niveau européen, nous voyons que le rapport de force pourrait évidemment changer, et que c'est une des problématiques qui se posent si nous voulons effectivement être capables de transformer en profondeur l'Union européenne. À partir de là, les solutions, et ce sera ma conclusion, elles sont doubles. La première, évidemment, c'est de développer au maximum un mouvement social, syndical en Europe. Mais ça a été dit tout à l'heure. D'abord, l'Europe, c'est encore des États avec des conseils des ministres qui se réunissent, je l'ai dit, avec y compris une géopolitique qui existe. Ça veut dire que le moyen le plus sûr de transformer les choses, c'est de prendre le pouvoir dans les cadres nationaux. C'est, comme le disait ce matin, la présidente du Parlement grec, reprendre en main son destin. Et à partir du moment où on reprend en main son destin contre le marché, eh bien là, on peut mettre en application une politique qui est de dire au premier Conseil des ministres européens, nous n'obéirons pas aux traités, parce que ces traités nous emmènent à la catastrophe, nous n'obéirons pas à la règle d'or, nous voulons un pôle public bancaire, même si c'est interdit dans les traités, et nous sommes prêts pour ça à toutes les conséquences. C'est un point important, cette désobéissance. Parce que si en France, demain, il y avait un gouvernement de Front de Gauche et de ses alliés, et que nous faisions ça, nous avons toutes les chances de bousculer l'Europe. Parce que l'Europe ne sera pas sans un pays comme la France, deuxième puissance. Et c'est pour ça, je le répète, que est criminelle la décision de François Hollande de ne pas soutenir le peuple grec. Et que notre réaction est beaucoup trop faible dans la solidarité que nous avons par rapport au gouvernement de Tsipras. Ici, il y a aujourd'hui 7 euros des milliers de personnes. Mais le 20 juin, il va falloir que nous soyons des dizaines de milliers de personnes dans la rue. C'est aussi des façons de transformer les choses. Mais, chers camarades, tout ça, ça ne peut être valable. Tout ça ne peut fonctionner. D'abord qu'à une condition, c'est que nous soyons capables de prendre le pouvoir. Ce qui veut dire une indépendance totale par rapport aux partis du système, que ça soit libéraux ou sociolibéraux. Comme ça a été le cas en Grèce, comme ça a été le cas en Espagne. Et la deuxième chose, c'est que quand nous mettrons sur la table la question de la désobéissance, oui, il faut dire que nous avons un plan B. Parce que si nous n'avons pas de plan B, si nous n'avons pas une menace, eh bien nous ne serons pas pris au sérieux par les autres gouvernements européens qui n'auront pas encore été obligés de modifier le rapport de force. Ça veut dire que ce plan B, c'est que nous devons, à partir du moment où nous irons jusqu'au bout d'une politique de désobéissance, assumer le fait de faire refonctionner la Banque de France pour, de manière unilatérale, monétariser les dettes en rachetant les obligations d'État en son nom, c'est-à-dire réquisitionner la Banque de France, un contrôle strict au niveau du mouvement des capitaux, ce qui veut dire, oui, effectivement, que nous devons courir le risque de l'exclusion de la zone euro parce que nous devons mettre en priorité le mandat que donnera le peuple. J'entends quelques sifflets, mais si nous n'avons pas ce plan B préparé à l'avance, comprenez que tout ce que nous dirons par rapport à la désobéissance sera pris d'un revers de main par les autres États et les gouvernements. C'est la solution, écoutez-moi, c'est la solution pour qu'à ce moment-là, les autres peuples européens se disent, il y a un État là qui, un gouvernement, qui prend au sérieux les choses, qui nous appelle à la désobéissance, aux manifestations, et là, oui, l'espoir pourra revenir. Je terminerai sur une chose, tout ça est très urgent, parce qu'il y a une bataille entre eux et nous. Ce système, il ne peut pas rester en équilibre très longtemps. Nous sommes dans la menace d'une Europe de récession comme les années 30. Alors il y a deux issues. Il y a celle qui domine malheureusement aujourd'hui. L'issue xénophobe, nationaliste, on peut dire fasciste. Et puis il y a une deuxième issue dont nous montre la voie aussi bien Podemos et ses partenaires en Espagne ou évidemment Syriza en Grèce. Et nous avons un problème, c'est que comme dans les années 30, le système, il préfère toujours l'extrême droite au Front populaire. Toujours. Donc oui, nous devons assumer une chose, c'est que si nous voulons changer les choses, gouverner face aux banques, ça veut dire, un, que nous ne pouvons pas changer l'Union européenne dans le cadre de traité actuel, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter de rompre pour enfin que nous ayons une union libre des peuples libres. Voilà, il y a 10 ans, on disait non, on criait non, on a gagné sur le non, il faut toujours aujourd'hui dire non avant de pouvoir changer les choses.
On a évoqué un certain nombre de...